Donc, même endroit, deux ans plus tard, et nous avons Ron Maynard qui est ici encore une fois. Merci Ron pour nous parler de la mise en œuvre du code laitier. Il a beaucoup d'expérience en industrie laitière et a mené de l'avant ce code. Souhaiter la bienvenue à Ron Maynard. Merci, Susan. Merci de me donner l'occasion de parler à ce groupe. Comme Susan l'a dit, nous étions ici il y a quelques années. Nous avons parlé de notre processus, du code, et au cours des dernières années, nous avons accepté le défi que le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage nous a permis d'aller au prochain niveau, c'est-à-dire de mettre en place un programme d'assurance pour suivre le code de pratique. Alors, pour les étapes et les dates de ce qui s'est passé, au printemps de 2011, le Conseil national a demandé au PLC de l'aider à créer le modèle en juin. Le Conseil a accepté le défi au mois d'août. Nous avons convoqué un modèle. Et en octobre, nous avons recruté Lisa Pierce comme coordonnatrice du processus. En novembre, le groupe laitier s'est réuni pour la première fois par téléconférence. En janvier, c'était la première réunion en personne. Et en 2012-2013, nous avions 7 réunions en téléconférence du groupe et de nombreux messages courriels. En février 2013, nous avons fait un premier essai pilote dans une ferme de l'UBC, de l'Université de la Colombie-Britannique. En mars, nous avons eu un cours de formation au Collège Alfred pour ceux qui voulaient amener l'essai pilote sur le terrain. En mai-juillet, 37 fermes ont participé au projet pilote et il y a 2 semaines, nous avons eu une dernière réunion du groupe laitier dans le cadre du Conseil national, et nous avons mis de l'avant un programme et un plan pour le modèle d'évaluation. Le code de pratique a été élaboré en 2009, envoyé à tous les producteurs partout au Canada. Il y a eu 64 exigences, 283 pratiques optimales recommandées. Ce sont des pratiques pour répondre aux exigences. Il y a des idées de gestion et des suggestions. Nous voulions simplifier le processus. Nous voulions le rationaliser. Donc, nous en sommes venus à 25 questions. 64 exigences sont devenues 25 questions. Lorsque nous avons commencé le processus dans le groupe, l'évaluateur a dit que ça prendra 3 heures pour faire le programme. Les producteurs du groupe ont dit non. C'est ridicule. Entièrement ridicule. Ça ne passera pas. Essayons d'en arriver à 20 à 30 minutes. Regardons ces points essentiels. Et c'est là où nous sommes allés aux 25 exigences. On voulait encore simplifier. Lorsque nous avons commencé le programme de qualité du lait, notre dossier était épais comme une brique. Et maintenant, il y avait 35 à 40 points. Et maintenant, il y en a 10 à 12. Avec le bien-être des animaux, nous voulons identifier ces points critiques de contrôle. Cette évaluation doit être pratique, faisable sur toutes les fermes, qu'il y ait 12 vaches ou 1200 vaches. Comme Temple Gradin l'a dit, très très souvent, on gère ce qu'on mesure. Nos premiers défis Comme j'ai dit, on a créé le code en 2008-2009 sans penser à un programme d'assurance. Moi, je faisais partie du premier groupe de développement du code. On n'a pas posé la question, on n'a pas parlé de mesures d'exigence. Donc, les codes qui sont maintenant élaborés, on tient compte de ces questions. Si c'est une exigence, comment la mesurer? Nous ne l'avions pas fait. Le code Leti n'a pas été élaboré selon une approche formelle d'évaluation des risques. Avant, c'était un programme fondé sur la ASEP. Comment mesurer les soins et les bien-être des animaux? Les PLC ont une longue tradition de financement. Les gens à l'UBC, Anne-Marie, les Anne-Marie, en Colombie-Britannique, ce sont des spécialistes reconnus dans le monde entier sur le bien-être des animaux. Et c'est vraiment un élément clé. On a demandé à des chercheurs bien respectés comme Dan et Anne-Marie de se pencher sur le code et sur la façon dont on pourrait mesurer les soins des animaux. Cette recherche a aidé considérablement le comité laitier à suggérer des mesures basées sur les animaux. Ces mesures couvraient plusieurs exigences du code. On est passé de 64 à 25. D'ajouter des pratiques de gestion qui sont utiles dans les fermes pour assurer l'uniformité des pratiques des différents membres de la famille et d'autres employés. C'est l'aspect des pratiques standards. Nous avons déjà le LCQ, le lait canadien de qualité. Nous mesurons déjà les points de contrôle critiques, comme la température du lait et de l'eau de lavage. Ici, vous voyez un appareil que vous trouverez dans la plupart des fermes laitières au Canada qui vérifie la température du lait et de l'eau de lavage dans le réservoir et dans les tuyaux, qui sont des points de contrôle critiques lorsque nous parlons de la salubrité. Alors, nous avons un réseau national d'agents de validation qui vérifie et valide les fermes pour leur conformité au programme Les Canadiens de qualité. Ces agents de validation pourraient vérifier certains points clés pour complémenter la gestion et les mesures basées sur les animaux. Nous voulons que ces gens aient un rôle à livrer ces programmes pour éviter qu'il y ait plusieurs vérificateurs à la ferme. Comme Tim l'a mentionné, on ne veut pas une personne qui arrive à la ferme et ensuite une demi-douzaine. Nous voulons tirer parti de ces réseaux pour intégrer la traçabilité, la qualité et la biosécurité, ainsi que le bien-être des animaux. Nous pensons que d'avoir un cadre intégré de pratiques agricoles qui assure la qualité et la durabilité est important. Le Conseil national, Caroline l'a déjà parlé, ont facilité et accéléré le transfert des technologies dans les fermes, donner des assurances aux acheteurs, célébrer les réalisations des producteurs pour aussi constituer un mécanisme d'amélioration continue et éclairer les changements futurs au code de pratique. La durabilité, ce n'est pas une option pour nous, c'est une exigence. Qu'il s'agisse du sol, de l'air ou de l'eau, nous sommes des consommateurs et tout doit être en équilibre. Nous voulons donner des assurances aux acheteurs. Nous croyons que les producteurs doivent avoir un rôle clé à définir la durabilité et la qualité avec des spécialistes de leur industrie. Pourtant, nous voyons déjà des entreprises alimentaires prendre diverses initiatives récemment. on se pose des questions. Est-ce qu'ils veulent avoir un avantage et ne mettent pas d'efforts pour améliorer le bien-être des animaux? Nous voulons célébrer les réalisations des producteurs, les aider à atteindre leurs objectifs de gestion de la santé. Et nous voulons faire des gains pour les producteurs. Nous voulons une productivité accrue. Lorsque les producteurs viennent me voir, ils me disent on doit avoir davantage pour notre produit. Je leur pose deux questions. Qu'en est-il de votre productivité et quelles sont vos questions entourant le bien-être des animaux?
Il faut améliorer la gestion à la ferme pour améliorer les retours à la ferme. Alors, les gains collectifs pour le marketing, donc ça peut renforcer la notoriété de l'image des produits laitiers canadiens. Les producteurs sont déjà acquis au principe des soins animaux. Il y a beaucoup de producteurs qui font déjà beaucoup d'excellent travail. Parce que les vaches en santé et bien traitées donnent plus de lait et du lait de meilleure qualité. Une vache stressée n'atteint pas son potentiel génétique. On peut avoir la meilleure génétique au monde dans la laiterie au Canada. Mais ils n'atteindront pas leur potentiel à moins qu'ils ne soient traités correctement. Certaines des choses que vous allez voir, ce sont les brosses pour les vaches. Il y a des tapis en caoutchouc par terre aussi. Définir ses priorités pour le programme. Alors, est-ce qu'on essaye de régler le cas des fermes à problème ou est-ce qu'on essaye de faire avancer l'ensemble de l'industrie ou les deux? Alors, constituer un mécanisme pour l'amélioration continue des soins et du bien-être des animaux. Comment est-ce qu'on va faire ça? Les dirigeants laitiers ont décidé de mettre le programme en œuvre dans toutes les fermes. On veut faire les deux. On veut faire avancer tout le monde, mais on veut aussi s'adresser aux gens qui ont des problèmes. Les deux premières années dans les fermes, ça sera éducatif. Il va voir où on en est. Il faut retourner ce qu'on nous a déjà dit. Il faut mesurer où est-ce qu'on en est pour savoir où on va pouvoir s'améliorer et s'il va y avoir un résultat dans le processus. Alors, la formation aussi, parce que c'est pas bien si on dit, bon, vous avez un problème, et puis le fermier dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Si on ne sait pas, vaut mieux rester chez soi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. C'est la formation, la recherche, le développement. Et on le sait que le 25% des fermes au plus bas ont besoin d'aide, c'est sûr. Il y a besoin d'éducation et de formation, c'est critique. Et ça va bien aider aussi le transfert technologique. Alors, le programme d'essais pilotes, on l'a fait ça dans 30 fermes. On s'est fié à des volontaires pour faire l'essai pilote. En général, les producteurs de l'essai pilote ont vu qu'on faisait ce qu'ils voulaient. Donc, quelles impressions? Combien de fois est-ce que je dois être jugé? C'est une façon intéressante d'évaluer. Moi, je l'utiliserai dans ma ferme. Ça, c'est le processus d'éducation. Et l'autre, je fais du bon travail. Et vous l'avez confirmé. Ça, c'est le processus d'assurance. Donc, les leçons à en tirer, on a besoin de travailler avec les vétérinaires, les associations d'éleveurs, classificateurs, pour profiter de leur expérience et discuter de leur rôle dans ce programme pour assurer le bien-être des animaux en général. On a réalisé qu'avec juste 37 farms, c'était un essai pilote d'un essai pilote, en fait. Donc, on a essayé plusieurs choses dans différentes provinces avec l'expérience des validateurs. On avait certains avantages, par exemple, en Ontario, Penny Wallace, les gens dont vous avez vu le nom sur la liste des vérifications, ce sont eux qui ont fait la vérification en Ontario. Il y avait Steve Anema aussi, il a coordonné le programme au Québec. Et il avait l'avantage d'avoir une grande banque de données. Et donc, il pouvait voir les fermes diverses, il pouvait voir les meilleures, les moyennes, et puis celles où il y avait des problèmes. Donc là, on a eu certaines informations. Il y a des validateurs qui traient les vaches. Donc leur expérience, c'était pour scanner les troupeaux, par exemple. Et donc certains des validateurs sont plus des gens de bureau. Donc on a regardé ça. Comment est-ce qu'on peut l'incorporer dans notre programme lait de qualité? Il est fait de manière électronique. Alors comment est-ce qu'on peut inclure le bien-être des animaux dans ce programme? Alors là, c'était le deuxième essai pilote. On a vu le producteur, les fournisseurs de services, vétérinaires, classificateurs, pareurs d'ongles, les nutritionnistes. Donc c'est là où il y avait les agents de validation du LCQ. Les chercheurs ont dit, voilà où nous en sommes. On peut voir quelles sont les mesures à prendre et puis faire un état du troupeau aussi. Donc, par exemple, examiner 20 vaches, s'il y a des indicateurs comme quoi il y a des problèmes avec celles qu'on voit durant ces 20. Donc, à ce moment-là, on va examiner la ferme, évaluer plus de vaches. Donc, on essaye de le simplifier. Parce qu'il y a des fermes où il n'y a pas de problème. Et s'il y en a un, on peut y aller, les évaluer et continuer. Et donc, s'il y a des enjeux, on peut prendre plus de temps. Alors, voilà notre plan ambitieux 2013, revue du programme en fonction de l'essai pilote. On coordonne avec les mesures LCQ existantes. Donc, c'est Nicole Sollett, la coordonnatrice du programme LCQ. Donc, elle va prendre la portion bien-être des animaux dans l'initiative proactive. Et donc, ça, c'est la salubrité alimentaire, la traçabilité, la biosécurité, l'environnement et le bien-être des animaux. Ce qu'on veut mettre en place, c'est le bien-être des animaux. Et donc, c'est elle qui va mettre ce processus LCQ en place. Et donc, vu qu'elle a déjà fait ça depuis de nombreuses années, ça sera vraiment très intéressant. Alors, 2004, formation valideur et producteur et les autres intervenants. Et puis, le deuxième projet pilote. Ça, c'est un projet important qui va impliquer des centaines de fermes, pas juste 37. 2015-2016, on va amener le programme à la ferme. Les deux premières années, c'est le processus de validation LCQ. Ils viennent tous les deux ans. Et donc, tous les deux ans, il y a un processus d'auto-évaluation. Donc, cette évaluation va comprendre l'établissement de jalons. Et donc, il y aura deux établissements. On va donner au producteur une idée de où il en est par rapport à ses pairs, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Et il y aura les informations, les données pour l'industrie, pour savoir où l'industrie en est. Comme ça, on pourra mesurer où on en est et ce qu'il faut qu'on fasse à l'avenir. Alors, 2017-2018, l'évaluation sera en place dans toutes les fermes. Et donc, il y aura des conséquences si on ne satisfait pas aux exigences. Donc, on va développer ces jalons. Team. Donc l'équipe laitière, c'était une grande équipe qui a participé à l'élaboration du programme d'évaluation. Ils ont travaillé fort et ils ont apporté leur expertise au processus. Donc les producteurs, personnel des organismes de producteurs, coordonnateurs du LCQ, transformateurs, chercheurs, vétérinaires, représentants en vente au détail, Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux animaux et le CNSAE. Donc un gros merci pour votre précieux apport. La valeur du CNSAE, c'est ce que nous apprécions le plus. Le CNSAE est mené par l'industrie, pas par le gouvernement. Et moi, je suis impliquée dans la Fédération internationale de l'industrie laitière. C'est fait de 46 pays dans le monde. Et donc, moi, je parle aux rencontres de gestion agricole et aux rencontres sur le bien-être des animaux. Et je parle de ce processus. Et parce que tout le monde est dans la même place, les producteurs, les détaillants, etc. Donc, c'est vraiment un processus qui est unique et dont on peut être fier. Et donc, on est vraiment très heureux qu'on nous ait demandé de démarrer le code. Et maintenant, avec le modèle d'évaluation, nous sommes une industrie qui est très, très contrôlée. Donc, on a un avantage que d'autres filières n'ont pas. Et donc, nous connaissons nos producteurs. Ryder en a parlé quand il disait qu'il ne savait pas où étaient ses producteurs. Nous, on a des gens dans notre organisation qui savent où se trouve chacun des producteurs. Parce qu'il faut, qu'on le sache, parce qu'on sait qu'il va y avoir un camion laitier qui va arriver là dans les 48 heures. Donc, on a vraiment un avantage que les autres industries n'ont pas. Les producteurs laitiers du Canada ne vont jamais impliquer que c'est ça ce que vous devriez faire dans votre industrie. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire à cause de notre infrastructure et de notre système de contrôle. Bien sûr, il y a des bons points, puis il y a des défis. Parce que peut-être qu'on n'a pas la liberté que vous avez, mais il y a des avantages de l'autre côté. Donc, c'est ça ce qu'il faut considérer. On a posé une question sur le logo 100% canadien. Ça, c'est notre but, d'avoir quelqu'un comme Tim et qui dise, lorsque vous voyez ce logo 100% canadien, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est 100% canadien, la salubrité alimentaire est une priorité, il y a la sécurité pour les animaux, pour le bien-être, l'environnement, la traçabilité et la biosécurité. Ça, c'est notre but. C'est là où on veut en arriver. Nous voulons avoir ces programmes et qu'ils durent très longtemps. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et donc, je pourrai essayer de répondre à vos questions. Avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et je voudrais féliciter le CNSAE pour ce qu'ils font avec le code et le MESA, et puis également les PLC, puisqu'ils ont été les premiers à appliquer le nouveau processus. Vous avez un code excellent. Et comme quelqu'un l'a déjà dit aujourd'hui, félicitations aux producteurs de s'être exposés à ce genre de choses, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Deux questions. Tout d'abord, vous avez mentionné plusieurs fois, Ron, le lien entre la productivité et les soins aux animaux. Et ceci ne s'applique pas aux animaux qui ont une valeur économie assez basse. Par exemple, les vaches taries, etc. Alors, comment est-ce que vous allez vous adresser à ces animaux-là? Et également, en 2018, vous dites comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une mise en œuvre totale et comment ça correspond avec la prochaine revue du code. Merci, Gordon. Gordon a dit qu'on avait un très bon code. C'est parce que Gordon, il est modeste. ou il s'auto-félicite, je ne sais pas, mais lui, il était un des gens qui faisait partie de l'élaboration du code initial. Donc merci, Gold. Alors, les veaux mâles, on a déjà dit quelle est la responsabilité des producteurs. C'est pour les animaux qui sont sous leurs soins. Donc, une des exigences du code, c'est de s'assurer que les veaux ont du colostrum durant les 24 premières heures et qu'on s'en occupe bien avant qu'ils soient transportés hors de la ferme. Et une fois qu'ils partent de la ferme, ça ne fait plus partie de notre code de pratique. Donc ça, c'est la politique sur la... Ben, on n'a pas de contrôle une fois qu'il est parti de la ferme, mais on veut s'assurer qu'il est bien, qu'on en prend bien soin. Alors, pour la revue, je crois que c'est... Il y a un processus de tous les 5 ans pour la révision. Mais on a parlé à plusieurs personnes et on en a parlé hier soir au souper avec Dan Wary et Ed et d'autres personnes sur la révision du code. Et donc, on a vu, ce sera la décision du Conseil, mais je crois que le modèle d'évaluation est peut-être une priorité plus importante maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'efforts à faire. Donc, c'est important d'avoir le modèle et le programme d'évaluation. C'est une plus grande priorité que le code. Aussi, il faut réaliser que lorsque nous faisons ce plus grand projet pilote, on va obtenir beaucoup de renseignements sur les choses qu'on connaît déjà, certains défis auxquels on doit s'adresser dans le code. Bien sûr, il y a la robotisation de la traite. C'est quelque chose qui, en 2006-2007, ce n'était pas un gros enjeu. Mais maintenant, on a un qui arrive par jour. Donc, plus on a d'expérience avec ça et plus on voit comment ça marche, comment on va faire l'évaluation de ces fermes, on n'y avait pas pensé au début. Mais ça, c'est un nouveau défi et une nouvelle possibilité aussi. Un des aspects qu'on connaît déjà, c'est que l'état de la bête est important. Ils ont un score de 2 avec ces robots. Eux, ils ont des robots ont un système de peser, donc ils n'établissent pas la note d'état de la chair. Donc comment est-ce qu'on va s'adresser à cet aspect-là? C'est un autre aspect des exigences. Même résultat, mais c'est une autre manière différente de mesurer l'état. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Bon, merci beaucoup. Vous représentez très bien l'industrie laitière.